Daniel est mélomane.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà. Pas encore. Maintenant.
Bonjour, vous êtes sur Divergence FM 93.9 avec Milly Méloman, l'émission de musique classique. Alors, aujourd'hui, un numéro hors série, c'est-à-dire pallier à l'actualité des concerts sur Montpellier et région, mais lié à d'autres choses. Ben là, c'est notamment la nouveauté du disque, un disque paru qui est d'un chef que j'aime bien, d'une œuvre fort célèbre, très enregistrée, on pourrait dire encore un énième enregistrement de cette œuvre-là. Oui, mais il est tellement réussi que ça m'a donné envie de vous proposer, de vous proposer une émission spéciale sur une année importante dans notre histoire mondiale, oui, mondiale carrément. L'année 1913, bah oui, 1913, c'est la veille de 1914. Alors, 1914, je crois qu'il n'y a pas besoin de faire d'explication de texte pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors, oui, une année trouble, 1913, hein, compliquée. Les Balkans, hein, dont tout va partir, c'est compliqué. Il y a les guerres des Balkans. Oui, il y en a eu une première, c'est la Turquie qui en a fait les frais, l'Empire turc qui a reculé, mais il y en aura une deuxième, et ça va être entre la Grèce, la Bulgarie, la Roumanie, chacun va établir son territoire. Bon, mais il n'y a pas que la guerre. Il y a aussi la technologie, l'aviation, ça se développe, hein. Alors elle va se développer beaucoup pendant la guerre, mais là, il y a un certain Roland Garros, qui est un aviateur, pas un joueur de tennis, hein, qui fait la première traversée de la Méditerranée en avion. C'est en 1913. En 1913, côté de la littérature, il y a un petit jeune là qui publie un bouquin. Il en a pour quelques années à publier. Il publie le premier volume d'un gros pavé qui s'appelle « Du côté de chez Swann ». C'est un certain Marcel Proust, donc le premier volume de « La recherche du temps perdu ». C'est à ce moment-là que ça paraît. Je parlais de l'avion. L'automobile aussi se développe. Hein, les chiffres, on a à peu près... Quel chiffre fantastique! 45 000 automobiles fabriquées en France pendant cette année-là. 45 000, vous vous rendez compte? Et puis le cinéma se porte bien. Le cinéma se porte bien, il s'intéresse à la littérature populaire, notamment à Fantomas. Et on a le cinéaste Louis Feuillade qui tourne le premier film, sort le premier film de la série des Fantomas. Un roman populaire qui a eu énormément de succès depuis 1911. Et puis, voilà... Au milieu de tout ça, on construit des théâtres. On construit un nouveau théâtre. Le théâtre des Champs-Élysées, par exemple. Alors, il est nouveau parce qu'il y a de la modernité dedans. Le béton est utilisé. C'est une des premières fois qu'on utilise du béton pour une œuvre comme ça. Un monument, on va dire. Hein. C'est un certain Perret qui s'occupe de ça. Auguste Perret. Et puis, mais il y a quand même des sculptures très classiques qui vont par-dessus. Le béton n'est pas mis en avant. Et dans ce lieu-là, bah c'est une salle de concert, de ballet et tout. Et bien un jour, voilà ce qui se passe. Alors, les mélomanes ont reconnu, là, l'orchestre ne s'est pas encore déchaîné, ça ne va pas tarder. Bah, c'est le Sacre du printemps de Igor Stravinsky. Hein. Alors là, la version que vous entendez, bon, ce n'est pas celle de 1913, hein. Il n'y avait pas d'enregistreur encore à l'époque. Ça commençait tout juste, mais il n'y avait pas les moyens techniques pour le faire. Bah, c'est quand même le même chef, c'est Pierre Monteux. Qui a dirigé ça en 1929, là, cette captation. Hein, ça gratouille un petit peu. Hein. Alors, bah oui, voilà, création du Sacre qui va être un scandale mémorable, un chahut mémorable. Je vous en parlerai, je chercherai des souvenirs de tout ça tout à l'heure. C'est peut-être plus à cause de la chorégraphie que de la musique. Hein. La chorégraphie a beaucoup posé de problèmes. Alors, ça prenait place dans quelque chose qui s'appelait les ballets russes. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Les ballets russes, qu'est-ce que c'était, les ballets russes? Bah, c'est un mécène, quelqu'un qui s'est improvisé mécène, Serge Diaghilev, hein, qui a créé sa compagnie en 1907. Tout d'un coup, il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bah, je vais être mécène pour les arts. Hein. Donc, du côté de Saint-Pétersbourg, ça s'appelait à l'époque, ce qui allait devenir Leningrad un peu plus tard. Hein. Il va créer cette compagnie. Il y aura une première saison de cette compagnie en 1909 à Paris commence, et puis il y aura surtout un grand succès de cette saison-là en 1910, puis après les ballets russes, ben, ils ne resteront pas qu'à Paris, ils auront à Bruxelles, à Londres, à Rome, à Monte-Carlo, Berlin, Budapest, et même pendant la Première Guerre mondiale, ils iront dans les Amériques, aussi bien celles du Nord que celles du Sud. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des danseurs. Alors, on a le danseur célèbre, c'est un certain Nijinsky, hein, voilà, qui est grand danseur. Mais pour les amateurs de danse, et à Montpellier, il y en a un certain nombre, il y a une flopée de danseurs chorégraphes qui sont aussi avec les ballets russes. Un certain Balanchine, qui va faire carrière aux États-Unis plus tard. Et puis Fokine, et puis Léonide Massine. Voilà, donc c'est pas rien. Et puis, c'est pas que les musiques russes qui va être... Bien sûr, ça va être l'occasion pour la France de découvrir la musique russe, mais il y aura aussi des créations d'œuvres de Debussy, de Ravel, de Satie, de Millau, de Poulenc. Il y a des peintres, et par les peintres qui font les décors. Ah, allez, Picasso, Braque, Giorgio de Chirico, Matisse, voilà, pour n'en citer quelques-uns. 1910, création de L'Oiseau de feu de Stravinsky. 1911, création de Petrouchka du même Stravinsky. 1912, création de L'Après-midi d'un faune, la musique de Debussy. 1912 aussi, création de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel. Et puis, 1913, création du Sacre du printemps de Stravinsky. Alors, ce qui est bien pour mesurer l'impact du Sacre, qu'est-ce qui se faisait à la même époque? Je vous dis, Ravel, Debussy, les grands impressionnistes français occupent le haut du pavé. Tiens, allez, une pièce de Ravel composée à cette époque-là, pièce pour piano, à la manière de Chabrier.
Thank you.
Alors, Maurice Ravel, à la manière de Chabrier, une pièce composée la même année que le Sacre du Printemps. Quel écart, quand même, c'est pas le même monde. Et pourtant, Ravel était très proche des ballets russes et de Stravinsky. Ils se connaissaient bien, ils s'appréciaient mutuellement. Alors oui, Ravel qui avait 38 ans hein, à ce moment-là, Stravinsky lui en a 31. J'aime bien rappeler comme ça les âges de ces personnes-là, parce qu'on a toujours des images de ces compositeurs, généralement à la fin de leur vie. Non, les vieux ont commencé jeunes aussi, hein. Excusez-nous, excusez-les, mais bon, voilà. Et puis, il y a aussi un certain Debussy, donc je le disais. Bah Debussy, il va créer, les ballets russes vont créer une musique et un ballet de Debussy qui s'appelle Jeu, hein, deux semaines avant le Sacre du Printemps. Et ça va, la critique va déjà dire, mais qu'est-ce que c'est ? Bon, la musique, oui, bon, d'accord, mais qu'est-ce que c'est que cette chorégraphie à la mort moelle-neux. Ils s'en prennent à Nijinsky, déjà. Vous avez peut-être vu des images. L'année d'avant, il avait fait la chorégraphie de l'après-midi d'un faune, musique de Debussy aussi, et c'est avec des postures... comment les qualifier ? Ben, il s'inspire des images qu'il y a sur les vases antiques grecs, donc avec des profils, des bras tout raides, voilà. Et c'est une chorégraphie extrêmement raide qui passe pas du tout à l'époque. Vraiment, ça plaît pas du tout. Hein. Et puis, ben, il y a plein d'autres compositeurs qui sont en activité. Allez, dans ce Paris-là, ben, Gabriel Fauré, le compositeur des mélodies, ben, il compose encore des pièces pour le piano. Il a 68 ans. Mais il y a encore un maître plus ancien, Camille Saint-Saëns, allez, vous avez dû entendre le Carnaval des animaux quand vous étiez petit, peut-être la Danse macabre. Hein. Saint-Saëns, il a 78 ans, il continue à composer, il est toujours là. Donc c'est aussi ces compositeurs-là qui font la vie musicale parisienne encore. Et puis il y a la clique, c'est pas très gentil, mais bon, moi, c'est des compositeurs que j'apprécie assez peu, de la Schola Cantorum, avec Vincent Dindy, musique un peu sérieuse, un peu intellectuelle, plus tournée vers le 19e siècle que vers le 20e siècle commençant. Dans le reste du monde, il se passe des choses aussi, tiens. Il y a un autre compositeur russe qui va lui aussi faire un scandale, hein, avec la création d'une de ses œuvres. Hein, c'est un certain Prokofiev, hein, qui est plus jeune que Stravinsky, et qui va composer un concerto pour piano, son deuxième concerto pour piano, et ça va faire scandale aussi. Allez, mais écoutez le deuxième mouvement de ce concerto, un scherzo. Scherzo, dans les indications de mouvement, ça veut dire un peu plaisanterie. En général, c'est des mouvements courts et rapides. Scherzo du deuxième concerto de Prokofiev. Prokofiev, le deuxième mouvement scherzo du deuxième concerto pour piano. C'était Alexandre Toradze qui officiait au piano. L'orchestre, c'était... Alors, il a changé de nom. L'orchestre du Kirov, l'orchestre du Mariinsky. En fait, c'est l'orchestre de Leningrad, Saint-Pétersbourg. On ne sait plus quel nom donner, tellement ça a changé. Mais c'est de là que venaient les ballets russes. Et puis le chef, bah, c'est un chef qui a officié en France aussi, Valéry Gergiev. Alors... Voilà, eh bien, il se passe plein de choses quand même dans la vie parisienne. La musique russe, donc on la découvre, hein, et ça intéresse beaucoup les compositeurs. Les ballets russes ne font pas découvrir que de la danse, ils font aussi découvrir de l'opéra. Hein. Dans cette année 1913, va notamment être donné Boris Godounov, le grand opéra de Moussorgsky, hein, avec quand même une basse et aussi un chanteur qui va venir rejoindre tout ça, un certain Chaliapine. Les mélomanes auront entendu parler, qui était la grande, grande basse de cette époque-là. Quoi. C'est pas rien. Et qui est décédé à Paris, quelque part. Alors, on raconte qu'il serait sur son lit de mort, il chantait le rôle de Boris Godounov, la mort de Boris. Et qu'il était mourant et qu'il a, une dernière fois, avec les gens qui étaient autour de lui, chanté la mort de Boris. Les Espagnols aussi sont là. Manuel de Falla, il est aussi là, à Paris. Il est un petit peu plus âgé, Manuel de Falla. Il a 37 ans, je crois. Oui, c'est ça, 37 ans. Il essaye de faire jouer son opéra La vie brève, plus ou moins de succès. Hein. Mais il est épaulé par un autre compositeur espagnol très précieux et que les compositeurs français apprécient énormément, Isaac Albéniz. Qui est là et qui est aussi un compositeur tourné vers le XXe siècle. Et vous voyez, on est dans une époque où il y a beaucoup de ces musiques nationales, entre guillemets, qui vont arriver et qui vont devenir internationales, pour le coup. La musique russe, comme la musique espagnole, vont imprégner la musique contemporaine de façon majeure. Tiens, allez, vous allez voir, ça vous est familier, même si vous ne connaissez pas. Manuel de Falla, qui avait encouragé un certain Federico Garcia Lorca à faire de la musique. Parce que Federico Garcia Lorca était aussi un musicien doué. Mais il s'en est tenu à la poésie. Manuel de Falla, un petit extrait de La vie brève. Manuel de Falla, une danse espagnole extraite de La vie brève dans une version pour orchestre. Je crois qu'il l'a mis pour piano après aussi. Alors, c'est l'orchestre Simon Bolivar du Venezuela et c'est Eduardo Mata qui dirige cela. Alors voilà, le décor est un peu planté de cette soirée du 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées. Vous avez entendu ce qui se passait autour, on a évoqué un peu ce qui va se passer aussi derrière. Et quand même, avant d'écouter la musique, quelques morceaux de récit. Stravinsky lui-même, dans ses Chroniques de ma vie, qui raconte « J'arrive maintenant à la saison de Paris au printemps 1913, où les ballets russes inaugurèrent le théâtre des Champs-Élysées. » Où le théâtre des Champs-Élysées était inauguré au mois d'avril, je crois. La première représentation débutait par une reprise de l'Oiseau de feu. Le Sacre du Printemps passa le 28 mai en soirée. Ah pardon, pas le 20, le 28, pas le 29, excusez-moi. Je m'abstiendrai de décrire le scandale qu'il produisit. On en a trop parlé. La complexité de ma partition avait exigé un grand nombre de répétitions que Monteux conduisit avec le soin et l'attention qui lui sont coutumiers. Quant à ce que fût l'exécution au spectacle, j'étais dans l'impossibilité d'en juger, ayant quitté la salle dès les premières mesures du prélude qui tout de suite soulevèrent des rires et des moqueries. J'en fus révolté. Ces manifestations, d'abord isolées, devinrent bientôt générales et provoquant d'autre part des contre-manifestations, se transformèrent très vite en un vacarme épouvantable. Pendant toute la représentation, je restais dans les coulisses à côté de Nijinsky. Celui-ci était debout sur une chaise, criant éperdument aux danseurs. « 16, 17, 18 !» Ils avaient leur compte à eux pour battre la mesure. Naturellement, les pauvres danseurs n'entendaient rien à cause du tumulte dans la salle et de leur propre trépignement. Je devais tenir Nijinsky par son vêtement, car il rageait, prêt à tout moment à bondir sur la scène pour faire un esclandre. Diaghilev, dans l'intention de faire cesser ce tapage, de donner aux électriciens l'ordre tantôt d'allumer, tantôt d'éteindre la lumière dans la salle. C'est tout ce que j'ai retenu de cette première soirée. Et oui, ce tapage du sacre, il est connu. Alors, la critique musicale, bien sûr, s'en est saisie. Hein. Quelques lignes d'une critique parue dans le journal Le Temps, le 3 juin 1913, quelques jours après. Hein. Il faut en ce ballet distinguer nettement la part du musicien et celle du chorégraphe. La chorégraphie est d'une regrettable médiocrité. Un peu plus loin, il n'y a pas dans tout le Sacre du Printemps une seule ligne, un seul mouvement d'un seul personnage qui ait une apparence de grâce, d'élégance, de légèreté, de noblesse, d'éloquence et d'expression. Tout est laid, lourdement, platement et uniformément laid. Ils ne dansent jamais, ils ne font que tressauter, trépigner sur place. Et lorsqu'ils ont commencé de faire un mouvement quelconque, ils le répètent indéfiniment, jusqu'à la satiété, jusqu'à l'ennui, jusqu'à l'agacement, jusqu'à l'irritation. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez sévère. Et conclusion concernant Nijinsky, du même critique, « Monsieur Nijinsky est un danseur sans pareil. » Cet honneur pourrait lui suffire. Il serait plus sage pour lui et plus agréable pour nous qu'il ne prétendît point à une autre gloire que celle-là. » Et puis un autre critique clairvoyant. Alors, les deux critiques n'ont pas, les critiques que j'ai trouvées n'ont pas aimé du tout le comportement des Parisiens. Hein. Un critique éminent d'une revue qui tenait le haut du pavé dans la critique musicale, la Revue française de musique. Donc le numéro de juin-juillet 1913. Parlant dans cette création. Les Parisiens ont donné à cette occasion une preuve éclatante de leur sottise et de leur esprit réactionnaire. Sans appel. Hein. Et il dit, si on peut condamner sans hésitation avec circonstances atténuantes la chorégraphie de M. Nijinsky, on doit affirmer une bien moindre certitude au sujet de l'extraordinaire musique de M. Igor Stravinsky. Elle est parfois fort laide. Je veux dire qu'à nous, gens de 1913, elle paraît telle. Au milieu d'un grincement continu volontaire, s'affirment des qualités mélodiques remarquables, frémit une vie rythmique entraînante et s'épanouissent pour ainsi dire des bouquets harmoniques de la plus chatoyante couleur. La partition tout entière de Stravinsky, d'une richesse éblouissante et d'une originalité, d'une rare originalité, apparaît comme le résultat d'une gageure. Emportée par l'ardeur de sa jeunesse, avec une entière sincérité, sans doute le compositeur, dans un élan impétueux, a bondi en avant, a brûlé les étapes et nous a offert cette année la musique que nous n'aurions dû entendre que vers 1940. Dit chapeau ce critique-là, une espèce de clairvoyance et d'honnêteté. Dit moi j'aime pas, mais quand même, c'est quelque chose. La partition du Sacre du Printemps serait donc un spécimen prématuré de la musique de l'avenir ? Oui, s'il doit se poursuivre l'évolution actuelle vers une complication grandissante, complication à la fois rythmique, polyphonique et instrumentale. Mais, comme dans le cœur de tout musicien, même progressiste, il y a un réactionnaire qui sommeille, on se prend à penser qu'au goût de la complexité excessive succédera bientôt le souci de la simplicité. Et lorsque l'on connaît la musique de Stravinsky et que l'on lit ses lignes, quelques années plus tard, Stravinsky abandonnera ses expériences du sacre et reviendra vers la musique ancienne, celle de Pergolèse notamment, pour revenir vers la simplicité. sacré crève-variance, monsieur Léon Vallas, rédacteur en chef de la Revue française de musique. Et maintenant, laissons Marie Sjönsson avec son orchestre de la radio bavaroise nous offrir le Sacre du printemps. Thank you.